Salut Fanny.
Salut.
Ah, Yoshiva Kari. Ah. je suis heureux de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. T'es pas photographe?
Non.
Ça, c'est trop bien. Je crois que c'est la première interview que je vais faire sur ma chaîne photo où t'es pas... Où y a, c'est
oh,
pas
quel honneur que tu me fais.
mais c'est hyper intéressant parce que t'as plein de choses à partager. Ah, viens vers moi, du coup.
Shiva est photographe, par
contre. Elle est photographe. parce que t'as plein de choses à partager sur... le business, la posture de chef d'entreprise, le référencement, le copywriting, sur plein de sujets. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais là? On est chez toi d'ailleurs, merci,
oui.
Merci pour ça. Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mes propres retours d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotion, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formations. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grau Academy, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout te dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour, je te souhaite une très belle écoute.
Alors, donc moi, c'est Fanny, je suis freelance depuis 7 ans, où je suis spécialisée en rédaction de contenu pour le référencement naturel, donc pour le SEO, et pour le marketing, donc des contenus plus axés vente, branding, etc. Et j'ai aussi une petite partie coaching dans mon activité, que je faisais jusqu'à présent sous la gouverne de Live Mentor, puisque
ouais,
j'étais mentor sur les formations SEO et copywriting. Et l'année dernière, j'ai pris la décision de stopper pour faire du coaching sous ma gouverne à moi, Fanny Cayazo.
De voler par tes propres ailes.
Oui, c'est dur. Mais voilà. Et à côté de ça, je fais aussi de l'investissement immobilier, où okay, j'achète des appartements tout pourris que je rénove et que je mets en location.
Trop bien. Du coup, en off, là, quand on préparait l'échange, tu me disais que c'était pour toi hyper important d'avoir cette posture de chef d'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui sont dans ce truc de « je me lance dans la photo, ça fait quelques années, ce que je kiffe, c'est faire des photos ». Bon, ça, c'est le cœur du métier, ce qui paraît logique, tu vois. Et en même temps, qui ont du mal à se dire peut-être, allez, il faut y aller, il faut prendre une posture, prendre de la hauteur, peut-être prendre une posture où c'est pas juste faire des photos, c'est peut-être 10, 15, 20%, je sais pas, de mon activité. Il y a tout plein d'autres trucs qui existent et comment on accepte ça, comment on en prend conscience, comment on y va?
Alors, comment on y va? Je ne sais pas. Par contre, comment on en prend conscience? C'est très simple, c'est les factures que tu fais à la fin du mois, quoi. Enfin, pour moi, c'est relativement lié. En off, on faisait le parallèle avec les rédacteurs, où je trouve que bah, les photographes et les rédacteurs se ressemblent beaucoup, puisque bah, allez, 70%, 80% des rédacteurs aujourd'hui, c'est des gens qui se sont reconvertis.
Ouais, bah oui, c'est souvent le cas aussi des photographes. Ouais.
C'est souvent des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui font ça par passion pour l'amour des mots et l'amour de l'écriture. Mmh. Moi, honnêtement, j'ai fait ça parce que c'était enfin, j'avais besoin. À la base, je voulais pas du tout être freelance. Je voulais développer une start-up,
okay,
et j'avais besoin de rentrer de l'argent. Donc, la première compétence que j'ai pu vendre, c'était l'écriture, accès SEO, et j'ai fait ça comme ça, tu vois.
Ah, c'est marrant.
Donc,
ouais,
moi, j'ai pas du tout fait ça par l'amour des mots, d'écrire. Je ne lis jamais. Je ne lis pas.
Ah, c'est intéressant.
Tu vois.
Du coup, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à être moins attaché émotionnellement au sujet? Pour aller vers une démarche plus entrepreneuriale?
Eh ben, je m'étais jamais posé la question, mais je crois que oui, ouais, carrément. Carrément. Carrément, parce que en fait, la compétence, pour moi, c'était un produit, quoi, tu vois. Et c'est un truc que tu vends. Et à partir du moment, même si tu es passionné par ça... et alors, il faut savoir que dans les métiers liés à la rédaction, donc que ce soit le rédacteur web, le copywriter, etc., et je pense que finalement, le photographe, ça doit être la même chose, tu vas me dire. Hein, mais ce sont des métiers qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Moi, en tout cas, dans mon cas,
ouais,
si t'es vraiment passionné par l'écriture, lance-toi dans le roman.
Ouais, bah, c'est vrai que c'est très différent de faire des photos perso où en fait tu les fais sans enjeu, de photos où tu deviens photographe pro, où derrière l'enjeu c'est satisfaire un client, répondre à son besoin, mettre en place une démarche photographique où du coup tu vas te questionner sur du posing, de comment tu crées des émotions, tout ça, et tu sors juste de hop, je fais des photos pour le plaisir, quoi. Donc ouais.
Mais nous, en tout cas, dans la sphère rédaction, copywriting et tout, c'est pas des métiers qui sont en lien avec l'écriture. L'écriture est un outil, mais ce qu'on fait vraiment, c'est du marketing. Que ce soit en SEO ou enfin en SEO, c'est du marketing digital. Il faut que ton texte il fasse ranker le site sur les requêtes, par exemple photographe Aix-en-Provence, tu vois.
Ouais.
Il faut que le texte ranke là-dessus. Et si c'est en copywriting, bah, il faut que ton texte il vende ton service, qu'il présente ton univers, qu'il engage, tu vois, le lecteur. Il faut que ce soit vendeur d'une manière ou d'une autre. Donc l'outil, enfin ouais, l'outil c'est l'écriture, mais ça a rien à voir avec l'écriture. Et ce que j'ai vu de tous les gens que j'ai accompagnés, parce que j'ai quand même accompagné 143 personnes juste via Live Mentor,
Ouais, c'est
ça
énorme.
fait beaucoup de monde. ben en fait, tout le monde était là en mode j'adore écrire, etc. Et rester sur ce truc de ben moi je veux juste écrire pour les autres. Alors que non, à partir du moment où tu te mets à ton compte et où ça devient ta seule source de revenus, ben,
Ouais.
tu deviens un chef d'entreprise et tu as un produit à vendre qui est ta compétence. Mais du coup, tu ne peux plus voir les choses que par passion.
C'est hyper intéressant. Tout à l'heure, tu disais sur la partie facturation, du coup, que la métrique, c'était un peu ça aussi, de voir combien on facture, combien, j'imagine combien il nous reste à la fin du mois, combien on a encaissé, tout ça, ou c'est, t'as ce bon indicateur. L'aspect financier, c'est toujours un bon indicateur derrière, je trouve.
Dans ces cas-là, ouais.
Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de comment on arrive à avoir des tarifs, peut-être qu'on assume, des tarifs qui nous permettent d'en vivre. Je sais que chez les photographes, il y a aussi ce truc de cette difficulté à se vendre soi, entre guillemets, parce que du coup, c'est eux qui font la presta, c'est eux qui délivrent le service et tout, ils ont l'impression de se vendre eux. Et pour peu que tu manques un peu de confiance en toi, bah, tu te dis, bah, je vais vendre ma séance 500 euros, non, c'est beaucoup trop, et puis tu finis par vendre 100 balles ou 200 balles en faisant plein de cadeaux, tu vois.
Ouais.
Donc comment est-ce que t'as vécu ça et comment tu peux te détacher émotionnellement et justement prendre cette posture de je suis un chef ou une chef d'entreprise et finalement c'est qu'un outil la photo comme la rédaction comme tout ça quoi.
Moi personnellement, ce qui m'a aidé, parce que j'ai subi ça, de
Ouais.
pas oser pratiquer des tarifs à ma juste valeur, etc. Pour tout te dire, les premiers textes que j'ai vendus, je les ai vendus 12 euros.
D'accord, ah
Oui,
ouais. Pour 10 000 mots.
c'était un peu le 600, mais en gros, j'ai passé un mois à taffer sur cette mission. C'était un texte, pas un texte, c'était un site internet qui était spécialisé dans le permis d'exploitation.
Ok.
Donc le permis que tu passes pour pouvoir devenir restaurateur, avoir un snack, enfin tous les débits de boisson en fait,
Ok.
voilà, bar, etc. Même si bar, après il y a les histoires de licence. Je suis incollable sur le sujet. Si tu veux passer le permis d'exploitation, demande-moi du coup, parce que
Non.
j'ai dû écrire une trentaine de textes là-dessus, voire même plus. Bref. Et donc j'avais passé tout un mois là-dessus pour facturer 230 euros à la fin du mois.
Ah putain.
Et en fait, je pense que j'ai fait la pire connerie d'entrée de jeu qui m'a servi bah, de leçon.
Ah, direct quoi.
Parce que tu vois, tu peux pas bosser tout un mois entier pour juste 230 euros.
Et ouais. Et c'est hyper intéressant parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes. Tu vois, sur le papier, tu te dis, bah oui, c'est logique. Et il y en a qui continuent quand même.
Ouais, bah je pense que c'est soit il y a une question, enfin comment dire, j'ai envie, enfin ma réponse va être peut-être un peu dure, mais de dire qu'ils n'ont pas compris la leçon et peut-être qu'ils ont
Ils veulent pas l'avoir,
ou
peut-être.
peut-être qu'ils veulent pas l'avoir, mais à un moment donné, quand c'est ta seule source de revenus et que t'es systématiquement tous les mois en galère, c'est pas normal, tu vois.
Ouais, bah oui, je suis d'accord, ouais.
C'est généralement c'est l'électrochoc qui fait ça. Après
Pardon.
Je sais plus ce que j'allais
Tu
dire.
t'es fait, parce que là j'y pense, tu t'es fait accompagner pour ça? Parce que moi ce que je vois après en coaching, tu vois, dans mes programmes et tout, c'est que Souvent, il y en a qui voient pas que c'est pas normal. Là, c'est vraiment problématique. Il y en a qui voient que c'est pas normal, mais ils arrivent pas à le dépasser parce que c'est plus profond. C'est des blessures de rejet, d'abandon, trucs ou alors c'est trop dur de facturer à un prix plus élevé parce qu'ils ont trop peur, tu vois. Du coup, après, l'accompagnement, ça peut être bénéfique pour ça.
Complètement.
Est-ce que toi, tu as réussi, du coup, tu t'as pris conscience, tu te dis, bah, c'est pas normal de faire 200 balles en bossant un mois, et après, ça a switché, ou est-ce que tu as eu des phases pour avancer là-dessus?
Je me suis pas fait accompagner, mais je pense que j'aurais dû, parce que c'est ce qui permet d'aller plus vite. Mais moi, ce qui m'a fait un peu électrochoc, c'est de me prendre des leçons, bah, tu vois, comme la première mission. Enfin,
c'est voilà. Énorme, la première, en plus, ça se passe comme
ça. C'est une sacrée... Enfin, c'était pas la première, mais c'était une des premières, en tout cas. Et du coup, bah, voilà, ça m'a fait déjà un électrochoc. Et c'est aussi de m'entourer de copines qui étaient, elles aussi, freelance. Et qui pratiquait, je me souviens, il y a une copine qui me disait que son taux journalier était à 245 euros. Et moi, dans ma tête, j'étais là en mode waouh, mais elle est folle. Alors que c'est rien, 245 euros. Enfin, même ce tarif-là ne devrait pas exister.
Quand t'enlèves les charges, quand t'enlèves tout.
Il te reste rien. Ouais. Il te reste rien. Rien du tout. Rien du tout. Et en fait, je pense que moi, ce qui m'a fait prendre conscience, c'est de me manger des murs plusieurs fois. Jusqu'à ce que, parce qu'au début, moi, je me suis lancée en freelance, j'étais toujours chez mes parents.
Ok.
Donc, il y avait une grosse partie des charges courantes, enfin, que j'avais pas à ma charge. J'avais pas à remplir un frigo, j'avais pas à payer EDF, tu vois, tout ça. Et après, quand j'ai eu mon appart, là aussi, je me suis dit, bon, là, il va falloir augmenter les prix. Et après, ça s'est fait progressivement comme ça. En revanche, je pense que si je m'étais faite accompagner d'un coach ou d'un formateur, ça serait allé plus vite.
Ouais, ok.
Après, il y a eu aussi une phase de confiance, de gain de confiance en moi par la technique, ce que globalement tout le monde fait. C'est-à-dire qu'au plus je faisais des missions, au plus j'ai gagné en compétences et au plus j'ai eu foi en mes compétences. Parce que quand tu arrives à réitérer des process, ça te met quand même bien en confiance, ça te fait gagner du temps. Tu sais, si tu pars d'un point A, où est-ce que va être ton point B, etc. Tu vois. Donc le fait d'avoir des process aussi,
ça aide.
Ça m'a aidé, ouais.
C'est hyper intéressant. Moi, il y a un exemple souvent que je prends, tu vois, c'est par rapport à la technique. C'est un plombier, il n'est pas obligé de faire les plus beaux joints au monde pour en vivre. Il faut juste que ce soit étanche, tu vois.
Oui.
Et en même temps, là, par rapport... Non, mais tu vois, c'est...
Il vaut mieux que ce soit étanche.
Il vaut mieux que ce soit étanche, c'est mieux oui. Si tu veux en vivre. Mais en même temps, pour ces métiers, la rédaction, la photo et tout, en fait, il n'y a pas de limite dans le sens où, en fait, tu peux toujours trouver le mot qui est un peu plus juste, tu peux toujours trouver la lumière qui est un peu plus belle, machin. Et souvent, il n'y a pas non plus de formation de base. C'est-à-dire qu'un plombier, il va faire sa formation de plombier. J'ai un ami électricien, il a passé, je crois que c'était un CAP. Et pendant un ou deux ans, je ne sais plus, il apprend le métier. Et finalement, dans ces métiers-là, où en fait, c'est assez accessible, finalement, il suffit d'avoir quelques compétences, du coup, on peut avoir l'impression que ce n'est jamais assez. Parce qu'en fait, on n'a pas un seuil de base. Et en même temps, en fait, c'est infini. C'est-à-dire que dans la photo, tu vois, peut-être arriver à avoir... je ne sais pas comment le quantifier, mais tu peux arriver à 70-80% de belles photos de talent, et puis le reste, c'est peut-être le travail d'une vie, tu vois, arriver à voir la lumière différemment, à trouver la bonne pose, le bon truc. Et du coup, je me dis, ça peut peut-être impacter aussi le business. On a l'impression que c'est jamais assez bien techniquement, parce qu'on n'a pas de seuil, on va se comparer sur les réseaux, on se dit, ben, lui, il écrit mieux que moi, ou il fait des photos mieux que moi, et tout. Et du coup, ça limite peut-être aussi la capacité à avoir cette confiance-là.
Ouais, mais alors dans ces cas-là, il faut se référer à une seule chose, le client.
Ouais.
Peut-être que le client, il s'en contrefou de telle lumière et tout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est une photo qui lui plaise. Et si toi, pour toi, la photo, elle est pourrie, ce que t'as fait, c'est pas ouf parce que t'as pas utilisé toute la technique dont tu es capable. Si le client est content et qu'il est ravi de te l'acheter.
Ouais. Mais moi, je suis d'accord.
Tu vois ?
C'est arrêter d'être tourné un peu vers soi. Et d'aller, comme tu dis, tu vois, vers le client, vers ses besoins, vers sa satisfaction et tout.
Moi, il y a un truc qui m'a énormément aidée, notamment dans le... Elle me fait trop rire. La petite truffe qui dépasse.
Vous voyez pas là, mais il y a le chat qui est collé sous une table qui fait 10 cm de hauteur.
Il y a que le nez qui dépasse. Mais du coup, elle m'a déconcentrée. Donc, je disais, il y a un truc qui m'a énormément aidée, notamment dans toute la partie coaching et formation. Mais ça m'a aussi aidée dans la partie prestation de service pure et dure. C'est de me dire que quoi qu'il arrive, j'en saurai toujours plus que mon client. Et mon client n'a pas besoin de savoir tout ce que moi je sais.
C'est très juste.
Ouais. Tu vois, si le... Je sais pas si quelqu'un...
C'est pas le syndrome de l'expert?
Ah, peut-être.
On dit pas ça parfois. Je sais pas si c'est exactement ça, mais ce truc où en fait, quand t'es expert dans un domaine, tu crois qu'en fait, tout le monde est expert de ce domaine, parce que ça te paraît, tu l'as appris, ça
trop
te paraît simple.
Ouais.
Alors que tu sais, c'est cette théorie, on dit, tu lis 3 livres sur un domaine, t'en sais plus que 99% de la population, tu vois.
Ouais.
Et du coup, c'est un truc auquel il faut attention, parce que c'est pas parce que tu connais très bien un sujet
que tout le monde,
le monde le connaît. Mmh. Et c'est très juste, tu vois, tu t'es pas photographe, mais en fait, tes clients, moi je l'ai vu hein, tout le temps, hein, en mariage, en séance couple, tout ça. Toi, t'as des photos, tu dis, ah putain, je suis trop refait, c'est incroyable, tout ça. Tu leur demandes celle qu'ils préfèrent, toujours la photo toute pourrie où la lumière elle est dégueulasse et tout, mais ça leur rappelle un souvenir, ils ont une mimique qu'ils aiment bien chez l'un ou chez l'autre ou quoi, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est marquant parce qu'en fait, t'as deux choses, t'as ta satisfaction personnelle et la satisfaction de ton client, et dans un business, a priori...
c'est le client qui prime,
c'est le client, ouais.
Après, si vraiment tu veux te faire des kiffs et tout, bah lance des projets perso à côté, quoi.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, c'est comme les rédacteurs, écris un livre, fais ton propre blog... Enfin, un truc pour toi, mais quand tu vends ta prestation de service, la personne que tu dois satisfaire, c'est pas toi, c'est la personne qui paye ton service, quoi.
Ouais. C'est quoi ta relation à l'argent?
Ah.
Sujet.
Je suis en train de la travailler. Tout à l'heure, je te disais que je m'étais rendu compte que j'avais peur de manquer d'argent.
Ouais.
Et là, j'essaye de me détacher de ça. Après, ma relation à l'argent... je pense pas être quelqu'un de matérialiste du tout. D'ailleurs, tu peux aller ouvrir mes placards, tu verras que ça...
C'est vide.
C'est pas vide, mais il n'y a pas trop d'affaires.
Ok.
Je suis pas en mode à vouloir des trucs chers ou je m'en fous de tout ça. Mais pour moi, l'argent, c'est la tranquillité. Tu vois, j'aime pas compter. J'aime pas devoir compter.
Pas regarder, faire ce que tu veux quand tu veux.
Ouais. Après, bon, forcément, je compte parce que je suis pas au stade où... tu vois.
On claque.
Ouais. Mais...
Parce que ça existe, en plus. Parce que... Ben, tu vois, je me dis toujours, en fait, quand tu augmentes en revenus, souvent, tu fais augmenter ton niveau de vie ou tes besoins.
Ouais.
Et du coup, t'as toujours ce truc-là, quoi.
Mmh. Ouais. Ouais, probablement. Après, moi, c'est plus une monnaie d'échange contre la tranquillité, quoi. Tu vois ?
Ok. Et du coup, quel impact ça a sur ta vision de ton entreprise, sur comment tu factures, comment tu mets tout ça en place ?
Moi, je sais que pendant longtemps, la peur de manquer d'argent, etc., ça m'a fait rester dans un modèle qui ne me convenait pas.
Ah.
C'était pas, peut-être pas la question, la réponse que tu espérais.
Non, mais c'est intéressant. Hein.
Et donc,
c'est-à-dire,
du coup...
C'est-à-dire, tu peux préciser?
Bah, je gardais des contrats qui me saoulaient. Il y a eu pendant longtemps où, avec des clients, je n'osais pas augmenter les prix alors que j'aurais dû.
Ok.
Par peur de me dire, ouais, mais si le client, il dit non, je vais le perdre.
Et ouais.
Tu vois? Alors que je me suis rendu compte que c'était vraiment une connerie monumentale. Que si t'estimes que tu dois augmenter tes tarifs parce que quand tu fais tes calculs tu t'y retrouves pas, t'as plutôt intérêt à laisser ce client s'il veut pas accepter le nouveau tarif et à aller trouver des clients qui te payent mieux. Que de rester dans un truc qui te convient pas. Et pareil pour les missions qui sont pas alors je sais pas si les photographes vous pouvez avoir des contrats réguliers
en fait ou... ça se voit beaucoup en mariage par exemple, où moi je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui viennent vers moi en mode ils aiment pas spécialement le mariage, c'est exigeant, tu vois, c'est selon comment tu gères ton truc, c'est entre 30 et 60 heures de boulot selon la taille du mariage, selon si tu délègues le post-traitement, si tu utilises de l'IA ou pas, tu vois, mais ça peut très chronophage. Moi, à l'époque, quand je le faisais tout moi, c'était 50 heures de boulot un mariage. Entre tes rendez-vous en amont, parce que tu fais des rendez-vous qui durent un moment, tu signes pas tous tes contrats, entre la presta, les trajets, le tri, machin. Il y a beaucoup de photographes qui font du mariage parce qu'ils disent c'est rémunérateur, sauf qu'en fait, sur le papier, le temps passé pour gagner 1000, 1500, 2000 balles,
ouais, ça vaut pas le coup,
tu vois. Et il y en a beaucoup qui restent dans cette croyance de parce que la somme a l'air importante, on continue à le faire. Et tu vois, ça rejoint ce que tu dis, tu vois, de te rendre compte de peut-être que je pourrais remplacer un mariage par 3 séances à 500 balles ou 4 séances, je sais pas. Et en fait, j'aurai deux fois plus de temps. Parce que pour faire une séance, en 3-4 heures, c'est fait, tout compris, tu vois.
Ouais.
Donc, ouais, ça rejoint carrément.
Ouais. Et moi, honnêtement, je regrette de pas... Enfin, je regrette. Mais non, c'est fait, tu vois. Mais ça a duré un bon temps où j'osais pas, quoi. Et le pire,
comment
c'est...
Comment t'as passé ça?
Bah, petit à petit. En fait, le pire, c'est qu'à chaque fois j'ai mis fin au contrat, parce qu'au bout d'un moment, quand on a marre d'un truc, t'as beau prendre sur toi, mais en plus, je suis pas quelqu'un qui sait... Enfin, qui
prend, pas semblant.
Je prends pas beaucoup sur... Je sais pas trop prendre sur moi.
Okay.
Je le fais, mais c'est limité, quoi, tu vois. C'est pour ça que je pourrais pas être salariée, par exemple. C'est la principale raison qui fait que je n'ai jamais été salariée, parce que le peu de fois où je l'étais pendant mes études, je sais pas prendre sur moi. Voilà.
Ok.
Donc, ça, au bout d'un moment, à chaque fois qu'il y a eu une mission qui est devenue pesante pour moi, bah, ça a toujours fini par s'arrêter parce que j'en pouvais plus. Et en fait, à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc vachement mieux qui arrivait après, quoi.
Ah, d'arriver à lâcher.
Ouais.
Finalement, ça t'ouvrait d'autres portes.
Bah oui.
Où t'as pas la place de le faire.
Ouais. Et puis après, il y a juste un moment où quand tu t'entêtes à faire quelque chose qui te plaît pas plus que ça, bah t'es toujours rappelé par cette petite voix intérieure. et puis il y a un moment donné où, ouais, quand il y a le ras-le-bol, tu vois, moi ça a été l'année dernière, quoi.
Ok.
Où je me suis dit, j'en ai ras-le-bol.
Ah ouais.
Alors en fait, la vraie histoire, mais j'ai...
Ah vas-y, vas-y.
On passe pour des fous.
Dire.
On passe pour des fous.
Oui.
Enfin, je passe pour une folle.
Ouais, parce que moi, j'avais rien à dire.
Donc moi, je suis passionnée par l'immobilier,
okay.
Notamment la rénovation, etc. Et donc, du coup, je suis des investisseurs sur Instagram, tout comme ça. Et en regardant les stories d'une meuf que je suis, elle dit qu'elle va faire un soin avec un énergéticien parce que tous les entrepreneurs, enfin les investisseurs à succès qu'elle a rencontrés lui ont dit qu'une fois par an, ils faisaient ça.
Okay.
Donc elle s'était mise à le faire. Et moi, en tant que bonne moutonne...
Tu te dis, je vais faire pareil.
Ben, je vais faire pareil. Et le fait est que j'en trouve un, mais genre au-dessus de la colline, là, que tu vois par,
okay,
donc, par la fenêtre. Donc, j'y suis allée à pied et tout. Et donc,
le
je fais
pèlerinage.
Ma ouais, le pèlerinage. Ah oui, en plus, t'as vu, c'est une colline, il faut la monter.
Ça grimpe pas, ouais. Il faut vouloir.
Ouais, donc je le fais. Déjà, je suis sortie de là, j'avais l'impression d'être bourrée.
Ok.
Je n'ai pas bu, hein.
Ok.
Et j'étais là, waouh, puissant son truc et tout. Et en plus, pour redescendre, parce que le chemin est un peu... J'étais là, oh, je vais me faire une cheville et tout. Enfin, bref. Et en fait, suite à la séance, j'ai commencé à tout envoyer valdinguer. La relation avec la personne avec qui j'étais à l'époque, j'étais là, ça me convient pas.
Par
le
toi.
Boulot, ça me convient pas. Et en fait, j'ai tout envoyé.
Énorme.
Ouais. Ça a pris 6 mois. Mais tout y est passé, quoi.
Tu penses que c'est... Du coup, t'as... C'est peut-être difficile à analyser si c'est quelque chose, un ressenti, mais t'as pris conscience de trucs, tu t'es ressenti réaligné, tu t'es remis au centre, qu'est-ce qu'il y a...
Alors, sur le coup, je me suis sentie très en colère.
Ok. D'avoir fait ça, ou...
L'émotion qui est venue après la séance, c'est... Alors, au début, la sensation d'être bourrée, mais quelques jours après, d'être très en colère.
Ok.
Et gros ras-le-bol.
Ok.
Et en fait, c'est une amie qui m'a dit, mais en fait, il t'a juste réaligné. Parce que je commençais à dire, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, ce mec?
Ouais,
c'est pas possible. Je suis pas dans mon état normal.
Couille.
Ouais, c'est pas possible de tout remettre et d'être saoulée partout comme ça. Et une amie m'a dit, bah, en fait, il t'a réaligné. Et je pense que c'était le cas, quoi. Tu ouais. vois, il m'a réaligné. Et du coup, quand tu refoules, moi, je pense que je me suis trop enlisée dans mon activité telle que je la pratiquais. Ça a duré trop longtemps, tu vois.
Parce que du coup, bah, parce que tu disais, t'étais dictée un peu par la peur ou j'ose pas prendre un autre contrat parce ouais. que lui, machin.
Sur les tarifs, ouais. Peur de pratiquer des tarifs plus élevés parce que. Est-ce qu'on va me payer? Est-ce que ouais. je vais trouver des clients? Là, ça fonctionne. J'ai une recette qui marche comme ça. Mais le fait est qu'à la fin du mois, bah, tu t'en sors à peine, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc la recette, elle fonctionne pas tant que ça, tu vois.
Ouais, ouais, je vois. Ouais.
Et donc du coup, j'ai tout revu. Et voilà. Et de toute façon, quand tu restes trop dans une situation comme ça, ça finit forcément par te rattraper. Et au plus tu t'enlises, au plus quand ça te rattrape, c'est violent,
c'est
je trouve.
C'est violent, ouais. Comment tu t'en es sorti, du coup? Comment t'as... Parce que je pense que ça va parler, tu vois, je pense qu'il y a pas mal, on est pas mal, tu vois, il y a des trucs que j'ai vécu un peu similaires et tout, où en fait, t'as des moments où tu te lances au début, t'as l'énergie, t'as un peu le regard neuf, tu vois, tu te dis, c'est bon, je prends tout ce qui se passe, machin et tout. Après, tu deviens plus exigeant, t'as parfois du mal à dire non, enfin, il y a plein de problématiques que tu peux avoir. Comment t'as réussi à dépasser ça pour, et dans la perspective de se dire bon ben si j'arrête tel contrat c'est pas grave, ça va le faire, tu vois, trouver peut-être l'énergie, la motivation pour accepter ce changement. Est-ce que c'est ça s'est mis face à toi et t'as pas eu le choix, ça s'est fait tout seul, ou est-ce que toi consciemment, tu vois, quand tu disais t'es séparé, t'as recentré et tout, c'était conscient, tu te disais je veux plutôt ça et pas ça? Comment t'as géré le truc?
Comment j'ai géré le truc? En fait, il y avait déjà une phase dans mon activité où toutes les questions de tarifs, etc., j'avais déjà mis un peu le haut là parce que j'avais embauché quelqu'un.
Ok.
J'avais une apprentie. Et du coup, ça aussi qui m'a fait garder quelques contrats, c'était des contrats de sûreté, quoi, tu vois, parce que au cas où. Mais déjà, le fait d'avoir quelqu'un, d'embaucher quelqu'un, c'était plus juste moi à la fin du mois, parce qu'il fallait que je la paye, elle aussi, tu vois.
Et ouais.
Donc ça, déjà, ça m'avait...
Une petite pression. Ouais.
Ça m'avait fait cadrer les choses. Et aussi, mon apprenti m'a aidé plusieurs fois à me dire « Non, mais attends, tu t'es entendu la parler ? Donc, du coup, arrête tes conneries, là, et stop. » Tu vois, okay. Plusieurs fois, elle m'a retoqué comme ça. Là. Ouais, mon apprenti m'a retoqué quelques fois. Donc ça, voilà. Et ensuite, l'année où j'ai vu l'énergéticien, là, bah, c'était il y a un an, tout pile.
Ah oui, c'est récent.
Ouais. C'était il y a un an, tout pile. En fait, je crois que je me suis laissée porter, quoi.
T'as lâché un peu le mental, de questions ouais. et tout, et t'es allée...
Je me suis dit, de toute façon, là, j'ai peur. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Bah, tu sais quoi, c'est le moment, je vais me prendre toutes mes peurs en pleine face.
Ah, c'est pas évident, non, d'accepter ça. C'est comment t'as...
Bah, je crois que j'ai lâché prise, quoi. Je me suis dit, de toute façon, il y a bien un moment où il faut y passer, donc c'est maintenant. Et...
Il y a un truc qui m'intéresserait peut-être de creuser un peu. Souvent, j'ai le sentiment que l'être humain, de manière générale, est obligé d'être vraiment face au mur, voire carrément dans le mur, avant de se questionner. Et j'ai l'impression que souvent, il faut y être plusieurs fois dans ce mur avant de se questionner. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'à un moment, tu te dis « j'en ai marre de ce mur », donc tu t'arrêtes avant et tu te dis « je vais lâcher les peurs », tout ce que tu dis, tu vois, et du coup, qu'il y a une réaction qui, comment dire, qui n'est pas commune, mais qui paraît assez bénéfique, finalement, d'être pas au fond du trou, d'être pas bien, et de se dire, avant que ça arrive, c'est pas ça que je veux, c'est ça et tout. Comment tu... Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que ça te parle? Tu vois, qu'est-ce que tu as fait pour, justement, arriver à plus être dans ce truc-là, à plus être en réaction à ce qui te passait et arriver à lâcher tout ce que tu dis, ces peurs, ces questionnements, tout ça?
Il y a une phrase qu'on m'a dite hors contexte total. On m'a dit ça parce que je me plaignais de mes relations amoureuses. Et on m'a dit... Enfin, je me plaignais de mes non-relations amoureuses. Je rencontrais personne, etc. Et un pote m'a dit, Fanny, il faut faire confiance en ce qui peut arriver.
Ah.
Et j'ai pris ce mindset-là, et effectivement, quelques temps après, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça n'a pas fait sur la durée, mais une relation très chouette, etc. Et là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire pareil, en fait. Je vais faire confiance en ce qui peut arriver. Donc là, c'est le moment où il faut nettoyer.
Ouais.
Donc on sort les balais, l'aspirateur, on sort tout ce qu'il faut pour nettoyer. Ça va pas être agréable, mais voilà. Et on fait confiance en ce qui peut arriver, quoi.
Ok. Et maintenant, elle ressemble à quoi ta vie du coup?
Maintenant, je suis en pleine construction. J'ai le sentiment de repartir de zéro, mais parce que c'est le cas, j'ai décidé de changer d'activité. Donc je repars de zéro. Je fais confiance en ce qui peut arriver et j'essaye de me concentrer sur les bonnes actions et pas sur des actions où en fait tu fais ça juste pour gagner du temps et pas te confronter à ce que tu dois faire, tu vois.
Ça c'est du ressenti. Tu te dis, ah non, là c'est aujourd'hui par exemple, tu te dis, non, finalement là c'est pas le bon projet ou.
Non, c'est plus que je me dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour atteindre mon objectif,
Ok.
tu vois.
Tu te fais une vision, t'as une vision d'où tu veux aller, de ce que tu veux mettre en place, t'as un tableau de visualisation, des objectifs très précis,
J'ai
comment.
pas fait de tableau de visualisation. J'ai des objectifs sur du long terme. Et j'essaye de me fixer des petits objectifs mensuels, etc. Mais j'ai rien de noté. J'ai rien de noté, non. Je
Ok.
devrais peut-être le faire.
Je sais pas.
Je sais pas non plus.
Moi, je pense que ça vaut le coup de d'afficher, de noter, de l'imprimer des trucs et tout. Moi, j'y crois vachement parce que du coup, ça te le met dans la conscience un peu, où tu le vois régulièrement et tu le perds pas à l'esprit, quoi.
Par contre, je sais que tous les jours, je me répète mon objectif, tu vois, plusieurs fois
Ok.
dans la journée. Ouais.
Ah, c'est intéressant. T'as des
Ouais.
mantras un peu que tu te répètes régulièrement?
Des mantras, non, à part fais confiance en ce qui peut arriver.
Ok.
Et plus tard, tu te diras merci.
Ah, ok.
Ouais. Ça, je m'en rends compte, enfin, surtout avec l'immobilier. Donc moi, actuellement, j'ai 4 appartements.
Ok.
Et je compte pas m'arrêter à 4. J'aimerais en avoir plus. Et en fait, régulièrement sur Instagram, je partage quand on fait les travaux, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc sur les 3 appartements que j'ai rénovés ces dernières années, j'ai enchaîné en fait 3 ans ou pendant 6 mois dans l'année, j'ai pas de week-end parce que les week-ends, je suis sur le chantier à rénover.
Ah oui, d'accord. J'allais te dire comment tu gères les deux activités, quoi, finalement.
Bah, le week-end.
Ok.
Le week-end, tu vas rénover et on fait ça globalement en famille. Mon père vient m'aider.
Ok.
Bon, avec mon frère, on a fait une SCI tous les deux et sa femme surtout. Et donc, pendant 3 ans, tous les 6 mois, j'étais en train de rénover. Donc, c'est
Ok.
dur, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, tu t'es fatigué, quoi.
Ouais.
T'es fatigué. Donc, je partage ça sur Instagram et puis régulièrement, tu as des galères.
Ouais, j'imagine.
Avec l'immobilier, un chauffe-eau qui pète, un locataire qui te rend l'appart dans un état lamentable.
Des fuites.
Ouais, des fuites. Parfois des fuites miraculeuses, tu ne sais pas d'où ça vient. Enfin voilà. Mais après, il y a des périodes aussi, des longues périodes. Tu vois, là, ça fait un moment où on n'est pas du tout embêté par les apparts, ça tourne, tout va bien, quoi. Mais parfois, il y a des. Voilà. Et donc, je partage ça sur Instagram et souvent, j'ai le commentaire de. L'immobilier ça me tente, mais je vois quand même toutes les galères que c'est et du coup ça me déchauffe.
Ok.
Et moi ça me fait vraiment dire que dans 20 ans je me dirais mais merci meuf d'avoir enchaîné
D'avoir
6 mois
dépassé ça
de
et tout maintenant,
travaux.
quoi.
Ouais.
Ouais.
Parce qu'en fait moi actuellement j'ai que ça à foutre aujourd'hui, tu vois, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, j'ai que ça à foutre d'aller rénover des apparts le week-end.
Ouais, et puis en même temps, c'est un bon pari sur l'avenir, quoi.
Dans 20 ans, quand je vais tout revendre, ou quand
Ouais.
j'aurai
Ou
plus de
quand t'auras,
crédit,
ouais,
ou
t'as
tu
tes
vois,
rentes et tout après, ouais, c'est énorme.
je serai hyper contente d'avoir fait ça,
C'est
quoi.
sûr. Ouais.
Et c'est pareil pour aujourd'hui, dans le fait d'avoir fait tout valdinguer, d'avoir m'être séparée de plein de clients, de plus vouloir, enfin de vouloir changer d'activité, quoi.
Ouais.
Alors c'est vrai que je repars de zéro. C'est dur mentalement par rapport aux revenus parce que enfin on se disait tout à l'heure, pas dans cette conversation-là, mais dans une autre, que de, l'année 2022, moi, c'est une année où j'ai hyper bien gagné ma vie, où, tu vois, et là, je repars sur un revenu beaucoup plus modeste parce que je suis en transition, quoi.
Ouais.
J'évince une clientèle pour en prendre une nouvelle.
Ouais, c'était
évident. Mais je pense que le jour où ça sera en place et où ça va tourner, je me dirai merci, meuf.
Ouais, après, c'est les problèmes, ils nous paraissent toujours énormes quand on est en train de les vivre.
Mm.
Et puis, plus le temps passe, et plus ils se réduisent, et plus ça nous paraît insignifiant parce que c'est passé, quoi.
Puis ouais. C'est surtout qu'après coup, une fois que les choses sont en place et que ça tourne et tout, t'es content, quoi.
Ouais, il n'y a plus de problème. J'aimerais qu'on parle d'un autre sujet. Dans la photo, souvent, moi, c'était mon cas à une époque, tu vois. Tu fais des jolies images et tu penses que juste montrer des images, ça va suffire, tu vois. Après, tu t'intéresses au business, tu vois que, en fait, le référencement naturel, ça peut être hyper intéressant. La rédaction, le copywriting, la rédaction persuasive aussi, tout ça. Selon toi, parce que je sais que tu as travaillé avec plein de personnes, qu'est-ce que ça change de s'intéresser à ces sujets qui sont être bien référencé, savoir écrire, et pas juste écrire un joli texte, mais aussi écrire dans le marketing pour la vente, pour optimiser des conversions, pour que ton client il a envie de te contacter, de signer des contrats. Qu'est-ce que ça change en fait de se former à tout ça et de prendre le temps d'avoir une vision plus business pour revenir à ce qu'on disait au début, on est chef d'entreprise, donc c'est pas que notre cœur de métier, c'est pas que l'outil photo, par exemple pour les photographes, ça peut être d'autres outils qui sont hyper complémentaires et qui vont aider le marketing, la vente, tout ça.
Plus de clients.
Ok. Voilà, c'est simple, allez, au revoir.
Plus de clients. Moi, j'aime beaucoup le référencement parce que ça a été une source d'acquisition formidable pour moi. J'ai eu énormément de clients grâce à mon site internet. Et notamment des clients hyper connus ou tu vois, des gros clients. Quoi.
Okay.
Mon site internet m'a ramené je ne sais pas combien de milliers d'euros, mais il m'a ramené beaucoup d'argent.
Okay.
Et ce qui est génial avec le référencement, c'est que ton site il travaille à ta place. Quoi.
Contrairement aux réseaux sociaux où tu as besoin d'utiliser ton temps tous les jours. Quoi.
Bah ouais.
Ouais.
Ouais. Et ton site, après, attention, ça ne se fait pas non plus sans rien faire, mais une fois que c'est en place... Tu fais ton entretien régulièrement et tu as des leads toutes les semaines, quoi.
Ouais, ouais, c'est énorme. Mais ça change tout, du coup.
Bah oui.
Ouais. Du coup, toi, tu disais que tu avais, dans ton rapport à l'argent, tu avais un peu cette peur, tout ça. Est-ce que le fait, à un moment, d'avoir structuré ton activité pour avoir des leads réguliers et tout ça, ça a été aussi une solution pour affronter ces peurs que tu pouvais avoir et... peut-être cette peur de ne pas avoir de contrat et d'arriver à passer à un nouveau contrat, parce que quand t'en as un qui arrive, parce que t'es bien référencé, c'est plus facile d'en acheter un autre, quoi.
Ouais, carrément.
Ouais.
Ah oui, carrément, carrément. Et tu vois, l'année dernière, où j'étais en pleine remise en question de tout, etc., j'ai pas entretenu mon site comme j'aurais dû et j'ai perdu... moi, j'ai toujours été dans les trois premiers copywriter freelance. Si tu tapais, j'étais dans les trois premières. Et là, aujourd'hui, je suis toujours en première page, mais je suis en bas de la première page.
Ah.
Je reçois pas du tout les mêmes... j'ai quasiment plus de demandes via mon site.
Ah ouais,
site,
c'est
quoi.
Fou, ça. Mmh. Ok.
Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est... ah ouais, c'est un... C'est vraiment une charge mentale en moins, quoi. Parce que t'as un système d'acquisition. Après, il faut pas tout baser là-dessus. Parce que le jour où tu perds ton référencement, et ça peut aller vite, quelqu'un qui travaille mieux son site que toi, ou tu vois... Enfin, de toute façon, il faut pas mettre ses œufs dans
comme
le même panier.
Comme tout, en fait. Hein. Ouais.
Faut jamais mettre les œufs dans le même panier. Donc, il faut diversifier. Mais en tout cas, c'est clair que c'est une charge mentale en moins, puisque tu as des demandes de devis
tout
le temps.
Ouais, c'est énorme. Est-ce que tu as en tête, dans ton parcours, une ressource ou une expérience, un truc qui t'a vraiment aidé, ou une prise de conscience peut-être, qui t'a vraiment aidé à passer un cap sur le plan business?
Non, je crois que ce qui m'a fait passer des caps à chaque fois, c'était les envies que je pouvais avoir, dans ma vie perso. Tu vois, par exemple, le fait de prendre un cheval en pension, après de redevenir propriétaire d'un cheval, ou tu vois, des trucs que je voulais réaliser dans ma vie perso, ou le fait de vouloir investir dans l'immobilier et du coup de devoir sécuriser mon activité freelance. Et inversement, tu vois, le fait que j'ai cette mission qui me ramène tant par mois qui tombe, bah, ça m'ouvre les portes de l'investissement, tu vois.
Ah, c'est hyper intéressant. Du coup, tu dirais que dans ton business qui alimente ton activité, c'est le lifestyle que tu veux pour toi, quoi, peut-être ?
Ouais, et puis les envies que tu peux avoir. Moi, j'aime bien penser, donc tu vas me dire si t'es d'accord avec moi ou pas, mais j'aime bien voir mon business comme une extension de moi.
Oui, bah, oui, carrément, oui.
Et du
Je pense que à notre, quand on est solopreneur, enfin, à nos niveaux, même à mon avis au-delà, mais c'est sûr.
Mm.
Parce que si ça va pas dans ta tête, si t'es au fond du gouffre, ton business, il marche plus, quoi.
Puis même, tu vois, il y a des choses... moi, il y a encore 2 ans de ça, j'étais super contente de mon activité et je voulais de pivoter en agence.
Ah oui, tu m'avais dit, ouais.
Tu vois, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de pivoter en agence. En fait, mon apprenti, après 3 ans de contrat chez moi, elle a fini ses études et elle a embrayé sur une année supplémentaire dans un autre domaine. Donc, j'ai pas pu la reprendre. Et j'ai décidé d'embaucher personne d'autre parce que je me suis dit, non, en fait, je veux revenir à travailler toute seule, quoi.
C'est intéressant. Tout à l'heure, on discutait en mangeant, on disait, est-ce qu'on manque d'ambition ?
Ouais.
Avec ce truc-là où je pense qu'on a, enfin, je me reconnais dans ce que tu dis, tu vois, où finalement ce qui compte c'est d'avoir une vie agréable, d'avoir ses loisirs, ses plaisirs, de sentir bien, sentir aligné, enfin, on peut mettre tous les mots derrière. Et du coup, parfois on peut se dire, bah oui, mais j'ai pas envie de gagner des centaines de milliers d'euros par mois, de machin. Est-ce que c'est un problème ou pas, tu vois, pour toi, comment tu vois les choses par rapport à ça?
Après, je trouve que l'argent, c'est un sujet qui est tellement propre à chacun et personnel. Pareil pour avoir le train de vie, tu vois. Je connais des gens qui ont un train de vie hyper modeste et ils sont hyper heureux comme ça. Et pour rien au monde, ils voudraient changer ça. Mmh. Et d'autres gens qui ont besoin d'avoir un train de vie hyper élevé, toujours des grosses bagnoles, toujours, tu vois. Moi, après, dans mon cas... ma passion, c'est les chevaux. Et malheureusement, ça coûte cher. Donc, il me faut un peu d'argent pour ça. Et pareil, mon autre passion, c'est la rénovation. Acheter des appartements. Et les appartements, ça coûte encore plus cher.
Tu peux arrêter tes passions. Ouais. Tu iras bien dans ta vie.
Et non, je ne veux pas arrêter mes passions. C'est grâce à ça que ma vie
va bien.
C'est
intéressant parce que j'ai l'impression que finalement, ton business, il est vraiment au service de ta vie. Il est là pour alimenter ta passion de la rénovation, ta passion de l'équitation, ton envie de voyager. Et je trouve que c'est sain, en fait.
Mm.
Parce que du coup, j'ai l'impression qu'on peut... je sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est plus sain de courir après des passions et de comment je nourris ces passions-là, financièrement, que de courir après de l'argent. Ou par définition, tu vois, c'est jamais fini, il y a toujours un truc... Mm. Il peut y avoir toujours plus, enfin, il n'y a pas de but forcément derrière, quoi.
Bah ouais, de toute façon, tu amasses des billets pour faire quoi?
Pas les manger, tu peux les caresser peut-être, frotter.
Tu peux les manger, mais bon, je sais pas si c'est une bonne idée. mais ouais, enfin, moi je trouve que quitte à être à son compte, autant avoir une vie meilleure que si tu travaillais pour quelqu'un, quoi, tu vois.
Bah de fou, ouais, carrément. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager, transmettre, ajouter?
Non.
Okay. Non, je pose toujours la question. Parfois, on a des trucs en tête et on se dit, j'aurais aimé savoir ça ou, tu vois, ou qu'on me dise, qu'on me donne tel conseil, peut-être une époque.
Il y a peut-être un truc à partager, c'est que... quand on est travailleur indépendant, donc on est freelance, photographe, enfin voilà, qu'on est à son compte, ça n'exclut pas qu'on soit chef d'entreprise. Mmh. C'est pas parce qu'on est tout seul dans son business qu'on n'a pas la même responsabilité qu'un chef d'entreprise qui a des gens sous sa gouverne, etc. C'est ça. Tu es tout seul, certes, mais tu es toujours, tu es dans le devoir de pratiquer des prix rentables, entretenir des relations saines avec tes clients et entretenir un environnement qui fait que ton business peut prospérer pas au détriment de ta santé mentale, de ta santé physique, tu vois.
Trop bien. Je pense que c'est une bonne conclusion. pour les personnes qui veulent te suivre, elles vont où ?
Instagram.
Ok, je mettrai le lien en description.
Ouais, carrément. Et les plateformes d'écoute pour mon podcast.
Ouais, que t'as lancé il n'y a pas longtemps.
En mois de janvier.
Trop bien.
Ouais.
Trop bien. Merci Fanny.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce dernier t'a plu, je serais très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur Instagram à @jeremyguillaumephoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde. Je donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais. Je t'embrasse.